petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Je ne suis pas sûr que la majorité des Russes ait vraiment soif de démocratie. En tout cas, que le chef d'État en Russie soit le tsar, le secrétaire général du Parti communiste ou Vladimir Poutine, le rapport des Russes avec le pouvoir politique est quasiment le même. Navalny, le principal opposant actuel, est en prison. Il est même accusé officiellement de terrorisme. Certes, il y a eu des manifestations pour le faire libérer, entraînant de nouvelles arrestations d'ailleurs, mais la dictature de Poutine ne mobilise guère la population contre elle, et encore moins quant à la politique étrangère. Poutine semble avoir les mains libres en interne. Mais la Russie, passée pour une puissance devenue secondaire à l'extérieur. Les USA ne voyaient d'adversité majeure que dans la Chine. Alors, Vladimir Poutine gesticule. Mais ne sous-estimons pas cette gesticulation. La dernière fois que la Russie a menacé en Europe, elle est passée à l'acte en s'imposant, en s'emparant de la Crimée par la force en 2014. C'était la première fois depuis 1945 qu'un État européen entrait en guerre contre un autre État européen, même s'il n'y a pas eu véritablement de bataille. Aujourd'hui, bis repetita. 100 000 soldats russes armés jusqu'aux dents se sont massés à la frontière de l'Ukraine et Poutine lance des ultimatums. Qu'exige-t-il ? Il veut que les USA et l'OTAN s'engagent par écrit à ne pas intégrer l'Ukraine ou la Géorgie dans l'OTAN et à se retirer des pays proches de la Russie telle que la Bulgarie, pourtant indépendante. Sinon quoi ? Sinon, les avions, les chars et toute l'armée russe déferleront sur l'Ukraine. Poutine ne le dit pas ainsi, mais son armée n'est pas là pour rien. Évidemment, les Occidentaux ne peuvent pas satisfaire de telles revendications. Comment refuser une alliance avec un pays, en l'occurrence l'Ukraine ? Parce qu'un autre pays ne le veut pas, en l'occurrence la Russie. C'est absurde et d'autant plus invraisemblable que chacun sait qu'un traité n'a jamais été dans l'histoire une garantie de sécurité. En fait, concrètement, techniquement, la guerre est très peu vraisemblable car la Russie n'est plus l'URSS et elle aurait beaucoup à perdre. Militairement, la Russie consacre 62 milliards de dollars par an à son armée, à peu près comme le budget militaire de la France, alors que les USA dépensent 12 fois plus, 778 milliards de dollars pour leur armée par an. Économiquement, le PIB russe est de 1 650 milliards de dollars, en 2020, alors que celui de la France, deux fois moins peuplé que la Russie, est de 2 940 milliards de dollars, presque le double. D'ailleurs, Poutine, comme beaucoup de Russes, a la nostalgie de l'Empire soviétique. Non pas nostalgie du communisme. Notons en passant que le Parti communiste russe, autorisé, fait quand même 19% des voix. Nostalgie de l'immensité de l'ex-URSS, il y a plus de 30 ans maintenant, qui comprenait justement, entre autres, l'Ukraine et la Géorgie. C'est Khrouchtchev qui avait donné une petite autonomie à l'Ukraine en fixant les frontières que Poutine conteste aujourd'hui. Poutine n'hésite pas à dire haut et fort que, je cite, « la Russie et l'Ukraine sont un seul et même peuple ». Fin de citation. En un sens, il n'a pas tout à fait tort. La Russie et l'Ukraine descendent toutes les deux de ce qu'on appelle la Rousse, R-U-S, la Rousse de Kiev, qui est aujourd'hui la capitale de l'Ukraine, la Rousse de Kiev au XIe siècle, un même peuple slave à l'origine. De plus, la Crimée est russophone et russophile, et le Donbass, province ukrainienne qui borde la Russie, est peuplé d'habitants dont beaucoup se veulent russes. Pour autant, les revendications territoriales de Poutine sont-elles légitimes ? Certes, il y a la sacro-sainte liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes que soutient vaguement la vague opinion publique mondiale. Mais l'ONU et cette même opinion mondiale s'appuient aussi et surtout sur l'intangibilité des frontières. Or, la Crimée et le Donbass sont ukrainiens et l'ONU ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée par la Russie. D'ailleurs, attention, Hitler a commencé sa conquête de l'Europe en revendiquant des morceaux de territoire polonais, autrichien et tchèque où vivait une majorité d'Allemands. C'est comme ça que la France et l'Angleterre ont lâchement et dangereusement accepté les premières conquêtes militaires d'Hitler par le traité de Munich en 1938. Laisser faire Poutine serait un deuxième dangereux Munich. Munich qui n'a retardé que d'un an la Deuxième Guerre mondiale. L'Ukraine, quant à elle, demande son entrée dans l'Union européenne, avec laquelle elle a déjà quelques accords, et demande même son entrée dans l'OTAN. C'est évidemment ce que ne veut pas Poutine. Depuis toujours, la célèbre âme russe, qu'on décèle dans la très riche littérature russe, se sent une vocation mondiale messianique, celle de la troisième Rome, après Rome et Byzance. L'Église orthodoxe russe est partenaire de ce message, porteuse, et Poutine est en connivence étroite avec l'Église orthodoxe. La troisième Rome moscovite a pour mission de purifier moralement les civilisations. Poutine veut une exemplarité morale et critique vivement, comme beaucoup de Russes, la soi-disant décadence des mœurs occidentaux. Comme toujours, le problème est complexe. Beaucoup de paramètres interfèrent. Les USA ont un discours alarmiste et ferme, mais ne font pour l'instant pas grand-chose. Biden met en état d'alerte renforcé quelques 8500 hommes déjà présents en Europe. Il expédie des armes à l'Ukraine, mais pas trop, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Biden négocie à Genève, directement avec Poutine, puis entre leurs collaborateurs respectifs. Mais sans les Européens, est-ce les prémices d'un nouveau Yalta ? La France est moins alarmiste, mais tout aussi ferme en parole. Le 29 janvier, notre ministre des Affaires étrangères déclarait à l'intention de la Russie, je cite, « pas un pas de plus ». C'est très martial, mais que faire ? Certes, la dissuasion nucléaire française est pertinente, mais heureusement, on n'en est pas encore là. Macron parle au téléphone avec Poutine et Le Drian et son homologue allemand d'eux vont à Kiev. Donc il y a encore des relations, des négociations, mais une défense commune à l'Europe n'existe pas. Cependant, Russes, Ukrainiens, Allemands et Français, quatre donc, discutent dans ce qu'on appelle le format Normandie. Tout ça est virtuel, car en réalité, il y a l'oléoduc germano-russe, bientôt fini, passant par l'Arctique et accepté par les USA. Bravo, bravo l'écologie avec cet oléoduc passant par l'Arctique. Finalement, on n'est pas si ennemi que ça avec les Russes. En fin de compte, déséquilibre de force entre l'OTAN et la Russie, pauvreté économique russe qui ne vit que des hydrocarbures, imbrication des économies est-ouest, mesures occidentales pour geler les avoirs, menaces, c'est pas encore des mesures, menaces occidentales pour geler les avoirs des dirigeants russes dans les banques euro-américaines, il y a peu de risques de guerre. C'est un poker menteur. Un poker menteur, quoique j'ai en tête la célèbre pièce de théâtre de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu en 1935. Et on sait que la guerre de Troie, en fait, a eu lieu. J'ai en présence d'esprit les tirades qu'échangent entre les deux armées grecques et troyennes, les deux héros, Hector et Ulysse. Hector dit que ce sont des chefs tous les deux, que ni lui ni Ulysse ne veulent la guerre, donc on peut l'éviter. Mais Ulysse lui dit qu'il est bien d'accord pour la paix, mais que la guerre aura lieu, car depuis trop longtemps, Grecs et Troyens sont leaders de la civilisation et qu'il y en a donc un de trop. De plus, un soldat anonyme va lancer son javelot, l'ennemi réplique sans que personne n'ait voulu la guerre, méfions-nous des petits accrochages qui finissent par de grandes escalades.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.